Shalom tout le monde. Je crois que nous sommes dans l'étude du Shmona Esrei. Vous avez des livres? Nous sommes dans les bénédictions intermédiaires, celles où il y a des demandes. Nous sommes donc dans les bénédictions intermédiaires, celles où il y a des demandes, les demandes étant l'essentiel de la tefila. C'est-à-dire la tefila a pour arrière-plan la requête. Je viens demander quelque chose qui me manque. N'est-ce pas? C'est ça la définition de la tefila. Et je crois que nous en sommes arrivés à Re'ena Ve'onyenu. C'est la septième bénédiction du Shmoné Esrei, qui est la quatrième des demandes, dans laquelle on vient demander la délivrance. On va d'abord lire le... Oui? Oui? Pourquoi est-ce que l'histoire est à l'infinitif, à la fin de la bracha? C'est très simple. Hanun amarbe l'histoire, qui abonde de pardonner. Marvé l'histoire, il abonde de pardonner. Donc c'est pardonner en français aussi, c'est un infinitif. Quel est le problème? Pourquoi tu voudrais que ce ne soit pas un infinitif? Non, hamarbé qui abonde. Qui abonde? N'est-ce pas? Le ha, ici le ha yidia, est en fait comme le mot qui en français. Hamarbé qui abonde. C'est un ifaïl. On peut continuer? Bon, alors on est arrivé donc à la bracha de Goel Israël. On va d'abord la lire, n'est-ce pas? Re'ena be'onyenu. Vois donc notre souffrance. Veriva rivenu. Défends notre cause. Umaher le gaolenu giula shelema leman shemecha. Empresse-toi de nous délivrer d'une délivrance entière en faveur de ton nom. Ki el goel chazakata, car tu es un Dieu délivreur et fort. Baruch ata Hashem goel Israël, tu es source de bénédiction, Dieu sauveur d'Israël. Bon alors, toute cette bénédiction, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Pourquoi est-ce qu'elle est là d'abord? C'est la chose importante. Première chose à savoir, pourquoi est-ce qu'elle est là? Elle est là parce que on a commencé par la connaissance, après par la teshuvah, après par le pardon. S'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de possibilité de demander. Une fois qu'il y a connaissance, donc il y a possibilité d'éloignement, donc il faut faire la teshuvah. S'il y a possibilité d'éloignement, il y a possibilité du péché, donc il faut le pardon. Tant qu'on n'est pas pardonné, on ne peut pas demander la délivrance, parce que peut-être que la délivrance n'est pas venu parce qu'on n'a pas été pardonné. Alors il faut d'abord être sûr qu'on est pardonné. Une fois qu'on est pardonné et qu'on voit que la délivrance ne vient pas, alors on la demande. Jusque-là, vous suivez? Est-ce que la porte est bien fermée là-bas? Je crois que ça fait du bruit. Si tu veux bien vérifier. Elle est fermée. Bon, tant pis. Donc ça c'est pour l'emplacement. Oui. Alors, selon cette logique-là, elle devrait être à la fin. Si on parle de délivrance, la délivrance, ça vient à la fin. Ce qui prouve ce que je voulais introduire, c'est que la délivrance dont il est question ici, ce n'est pas la délivrance. Ce qu'on appelle la délivrance, avec un grand L et un grand D, la avec un grand L, et délivrance avec un grand D, ça veut dire la sortie de l'exil. On sort de l'exil, c'est ça la délivrance. Alors évidemment, ça se fait tard dans l'histoire. Bon, Baruch HaShem, nous on est déjà après. Déjà depuis 61 ans qu'on est sorti de l'exil. Mais enfin, c'est pendant des milliers d'années, on attendait ça. La délivrance dont il est question ici, il s'agit d'être libéré des tsarotes, des malheurs qui interviennent pendant le temps de l'histoire, que ce soit pendant le temps de la délivrance ou pendant le temps de l'exil. Par exemple, il y a le duc du coin qui a décidé de lever un impôt très lourd sur la communauté juive. C'est une tsara. Alors on prie pour que cet impôt soit annulé. Ou bien on a une guerre. Hein? Alors on prie pour que nous gagnions dans la guerre. C'est ce qu'on appelle la geoula, la délivrance dans le sens restreint du terme. Alors évidemment, dans le sens restreint du terme de la geoula, on introduit également l'aspiration à la geoula. Mais il s'agit ici d'une geoula plus simple. Par exemple, la fête de Pourim, ça c'est classique. La fête de Pourim, c'est une Géoula, bien qu'on soit resté en exil. Vous savez ce qui s'est passé à Pourim? Ça commence comment, l'histoire de Pourim? Ça commence mal, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça commence mal puisqu'Israël est en exil. Et puis ça continue comment? Pire, puisqu'il y a Haman qui veut nous exterminer. Finalement, on arrive à s'en sortir. Et alors, au lieu d'être pire, ce n'est que mal. D'accord ? Donc on se réjouit. On a évité le pire, mais on est resté dans le mal. N'est-ce pas ? Comment ? Ben oui, à l'époque de Pourim, on est resté dans le mal, puisqu'on n'est pas parti, on est resté sous la domination des Perses. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui tombe dans un puits, alors très embêté d'être dans un puits, et puis arrive un serpent. Il arrive à tuer le serpent. Très bien, mais il est encore dans le puits. D'accord ? Ça, c'est la fête de Pourim. C'est la raison pour laquelle on ne récite pas le Hallel à Pourim, parce qu'on ne récite le Hallel que quand on est sorti d'exil. D'accord ? Alors c'est ça le cas classique que vise le terme de Géoula ici. Oui ?
Mais Pourim, ça n'a pas abouti sur le retour des Juifs
en Israël. Pourim a abouti également par la suite à un retour partiel des Juifs en Eretz Israël, et même à la reconstruction du Temple, et même finalement à la révolte des Hachmonaïm, etc. Mais ce n'est pas là-dessus que se fait la fête. C'est-à-dire la fête est faite parce qu'on a réussi à éviter l'extermination. C'est ça la raison de la fête. Parce que la suite, elle a été très lente. Et la suite, finalement, elle a abouti à la révolte des Hachmonaïm. Et pour ça, il y a une autre fête, Hanouka. D'accord ? Mais la fête de Pourim elle-même, c'est qu'on remercie Dieu de nous avoir sauvés de l'extermination, bien que nous soyons restés au fond du puits. Jusque-là, vous me suivez ? Ici encore. Quelque chose qui n'a pas l'air d'être d'accord. Le Hallel ne se récite pas à Pourim. On ne récite pas le Hallel à Pourim. T'as remarqué ? Parce qu'on ne récite le Hallel que lorsqu'il est sorti d'exil. Alors, il y a tout un sujet là-dessus. Il y a trois opinions dans la Guémara pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Hallel à Pourim. Mais même l'opinion que tu cites, qui est une des trois, parce qu'il y a là-bas trois opinions, qui disent qu'on ne dit pas le Hallel quand on n'est pas libéré. Il y en a qui disent qu'on ne dit pas le Hallel parce que c'est un miracle qui s'est fait en Chutz La'aretz, aura un miracle de Chutz La'aretz qui ne mérite pas le Hallel. Et la troisième opinion dit que c'est la Migila qui remplace le Hallel. Mais cette opinion qui dit que la Migila remplace le Hallel, ça suppose une autre question. Et pourquoi pas le Hallel alors? C'est que la manière dont cette délivrance est faite était tellement, misérable qu'on ne pouvait pas dire le Hallel. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Ça commence comment? Il y a là-bas Mordechai et Esther, n'est-ce pas? Mordechai est un type très bien, Esther aussi. Et Mordechai, dans toute cette histoire, finalement, il s'en sort très bien. Il devient le vice-roi. C'est ça ? C'est comme ça que finit la Megillah. Mordechai est l'adjoint du roi de Perse, etc. Et Esther, dans toute cette histoire, qu'est-ce qu'elle devient ? Elle reste dans le palais du roi, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'elle est perdue pour Israël. C'est-à-dire le prix qu'on a dû payer pour être sauvé, c'est de renoncer à une bonne jeune fille d'Israël qui reste coincée chez son goy, n'est-ce pas? Alors tu vas faire de ça le Hallel. Alors la Megillah remplace. Revenons donc à notre pénétrante étude. Réna Vonienu. Alors maintenant on va rentrer dans le détail, n'est-ce pas? Donc on a bien compris que ce dont il est question ici, c'est pas la délivrance avec un grand L et un grand D, ça c'est par la suite. Là, on est les délivrances pendant le cours de l'histoire. Réna Vonienu, vois notre misère. Oni veut dire la misère. C'est quoi la misère? C'est l'humiliation du peuple juif. C'est-à-dire, nous sommes Dans une situation grave, les Cosaques entourent notre isba. Et il y a des impôts, tout ça, ça va très mal, quoi. Voilà, il y a des pogroms de temps en temps, c'est insupportable. Ça, c'est notre misère. Veriva rivenu. Alors, riva rivenu, ça veut dire de manière très précise, défend notre cause. C'est un terme juridique. La rive, c'est quelque chose qui se fait au tribunal. C'est comme si on demandait à Dieu de venir au tribunal et de défendre notre cause devant le tribunal. Quel tribunal? Et pourquoi est-ce qu'il y aurait quelque chose à plaider? C'est comme si on disait à Dieu, quelque chose vient plaider. Ça suppose qu'il y a un contrat et que ce contrat a été violé. Et donc on vient se plaindre de la violation du contrat. Quel est le contrat dont il est question? C'est le contrat de la galoute. Il y a un contrat particulier, oui exactement, les trois serments, qui a été institué lors du début de l'exil entre Israël, Akadosh Baruch Hu et les nations. Il y a plusieurs clauses. Alors une des clauses, c'est qu'on ne se révolte pas contre les goïms. Parce que si la galoute doit tenir, si on se révolte contre les goïms, il n'y a plus de galoute. Et qu'il ne faut pas... Venir en masse, n'est-ce pas? Faire la conquête d'Eretz Israël, etc. Il ne faut pas. Pendant tout le temps de la galoute, il ne faut pas. Et la troisième clause, c'est que les goïms n'asservissent pas Israël trop lourdement. Et il ne doit pas exagérer. Quand ils exagèrent, alors là, on se plaint devant Akadosh Baruch Hu. C'est Réna Boninou voit notre misère, la misère qui nous est imposée par l'exil. Et défend notre cause quand il y a violation du contrat par les goïms, quand ils exagèrent. C'est-à-dire, les impôts, d'accord, les pogroms, non. D'accord? Donc, Réna Vonienu, Veriva Rivenu. Et ça arrive parfois que les goïms, ils exagèrent. Ils ont très fortement exagéré il y a 70 ans, avec la Shoah. C'était vraiment très exagéré. Alors là, on vient se plaindre devant un code de jour. On dit, qu'est-ce que c'est une histoire? C'est pas normal, c'est contre le contrat. Comment?
Alors on l'a violé.
Qui on l'a violé? Les goïms ont violé le contrat. Non, nous le contrat c'était tout à fait comme il faut. Le sionisme, etc., pas de problème. C'était autorisé par les goïms. Ils ont fait même ce qu'on appelle la conférence de San Remo, dans laquelle ils ont décidé que la Palestine deviendrait un mandat britannique pour fonder un foyer national pour les juifs, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de problème, oui. Bon, alors il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est toute une étude, dans quelle mesure on est encore engagé ou pas engagé par rapport à ces trois serments, évidemment que c'est fini depuis longtemps. Par exemple, un des arguments, c'est ce que tu dis, c'est une des parties viole, alors l'autre partie n'est plus engagée, par exemple. Donc c'est ça, « Réna vonienu veriva rivenu ». Umaher le gaolenu, empresse-toi de nous libérer. Pourquoi est-ce qu'on demande que ce soit vite? Umaher le gaolenu. Parce que d'habitude, tous les processus que Dieu fait dans le monde sont des processus lents. Et pour la Géoula, on demande que ce soit rapide. Mais pourquoi? Parce qu'au moment où ça se passe, si ce n'est pas rapide, c'est dangereux. Exactement, c'est ce qu'on appelle les dangers du passage. Par exemple, pendant le temps où nous étions en Égypte, on était pendant plusieurs siècles en Égypte, ça s'est bien passé. Mais au moment de partir, il fallait faire vite. Par exemple, dans la Gada de Pessah, on raconte que c'était avec empressement, berhipazon. Donc il y a, quand on passe d'un état à un autre état, il y a les risques de déperdition à ce moment-là. C'est là que intervient le hefker. C'est-à-dire le hasard, les forces du hasard se libèrent, et alors on risque d'être livré au malheur. C'est pour ça qu'on demande que ce soit vite. Ou maher de golem. Geoula chez les mains, une geoula entière. Les mains chemecha, en faveur de ton nom. Alors c'est quoi une geoula entière, en faveur de ton nom? D'abord commençons par le en faveur de ton nom. Quelle est la motivation de la geoula? Pourquoi est-ce que Dieu libère Israël? Comment? Pour glorifier son nom. Parce qu'on pourrait dire, il libère Israël parce qu'Israël le mérite. Alors, s'il faut attendre qu'on le mérite, ce n'est pas toujours facile. Parfois, on mérite, parfois, on ne mérite pas. Et en tout cas, ça voudrait donc dire que l'aboutissement de l'histoire dépendrait du bon vouloir des hommes. Et ça, comment dire, à quel point je me retrouve, il ne peut pas se permettre. Parce que le bon vouloir des hommes, c'est très aléatoire, étant donné que l'homme a le libre arbitre. Donc, l'homme peut choisir de faire le bien ou de faire le mal. Et donc, s'il fallait attendre qu'Israël soit méritant pour qu'il y ait la Géoula, il n'y aurait pas la Géoula. Or, Akadosh Baruch Hu est intéressé à faire aboutir l'histoire, il veut sanctifier son nom. Et donc, on lui rappelle, écoute, on te demande de nous libérer, c'est l'Eman Shemecha, en faveur de ton nom. Voilà, exactement. Voilà. Exactement, c'est ça qu'on dit, l'Eman Shemecha, c'est donc en faveur de ton nom. Maintenant, si c'est en faveur de ton nom, alors il est évident que cette rédemption doit être parfaite. L'Eman Shemecha. Si c'était uniquement dans notre intérêt, on pourrait se permettre donc une libération partielle. Quelque chose, en tout cas, qui permette de sauver les meubles, que ce ne soit pas trop dur. Mais si c'est pour le nom de Dieu, alors il faut que ce soit parfait. Donc l'Eman Shemecha, c'est Geoula Shelema. Baruch Ata Hashem, Goel Israël, tu es source de bénédiction Hashem, qui est le sauveur d'Israël. N'est-ce pas? C'est un des attributs de Dieu, qu'il est sauveur d'Israël. Ça veut donc dire qu'Akadosh Baruch Hu est sioniste. On lui rappelle de temps en temps qu'il est sioniste, et donc il doit faire son travail, enfin sa partie du contrat. Jusque-là, vous suivez? Très bien. Et bien, on peut continuer. Réfaé-nous, guéris-nous. Si on demande d'être guéri, c'est qu'on est malade, oui? N'achot, absolument. C'est quelque chose qui est vrai tout le temps. Tout le temps, on a besoin de rédemption. Par exemple, je ne sais pas, il y a un décret américain comme quoi on n'aurait pas le droit de construire à Jérusalem. Alors, il faut prier pour abolir ce décret. Voilà. Quoi? On n'est pas obligé. Oui, d'accord, mais on est bien embêté parce qu'ils nous font des histoires avec ça.
Mais c'est pas justement là, à ce moment-là, où on doit commencer à
réagir.
À se révolter, ça veut dire même pas.
Ah oui, absolument. Il n'y a pas de problème. Non. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Les Juifs doivent réagir. Le problème, c'est que les Juifs sont très souvent intéressés aux pressions américaines. C'est-à-dire, on est terrorisé à l'idée d'être indépendant. C'est un syndrome très important dans la profondeur de l'être juif, c'est qu'on se sent obligé d'être lié aux pressions américaines. Ça fait partie de notre être. Par exemple, il y a d'autres pays dans le monde, quand ils achètent des armes, par exemple, Singapour, hein, les Singapouriens, ils achètent des armes. Ils achètent des armes aux Américains, aux Russes, aux Chinois, aux Israéliens, comme ils ont envie. Non, c'est vrai, ils achètent des armes. Tandis que les Américains disent aux Israéliens, vous ne pouvez acheter des armes qu'américaines. Ah bon, et pourquoi? Mais nous sommes très intéressés à ça, parce que ça crée une situation de dépendance culturelle et politique qui nous sauve de notre indépendance. Parce qu'une des choses les pires, un des pires ennemis de l'homme, en tout cas du point de vue du subconscient humain, c'est la responsabilité. Nous ne voulons pas être responsables. Oui. Les subventions américaines constituent, je crois, quelque chose comme 3% du budget national israélien. Ouais. C'est-à-dire que c'est très important pour nous ces 3%. On peut les brandir à tout moment comme un épouvantail. Vous vous rendez compte, si on ne fait pas ce qu'Américains nous disent, ils vont nous supprimer les 3%. D'accord? C'est ça la vérité. Ça ne fait que mettre en évidence ce que je dis. Oui, dirige. On a leur soutien diplomatique. C'est-à-dire que nous pouvons aussi les soutenir. C'est-à-dire il faut pas oublier quelque chose. C'est que, en vérité, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous révolter, mais les Américains ont besoin du soutien israélien.
C'est une mamie sur Moyen-Orient.
Sur beaucoup de choses. Il faut pas se leurrer.
Hein? Ils ont plus besoin de nous.
Mais en tout cas, c'est-à-dire que nous avons besoin de ça. Maintenant, revenons donc à nos histoires de Réphaénou. Réphaénou, c'est la huitième bénédiction. C'est celle qui parle de la guérison. Si on parle de guérison, ça suppose que nous sommes malades. Ah bon? Pourquoi est-ce que nous sommes malades? Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a des raisons, disons, morales. C'est le péché, les persécutions. Tout ça, ça nous rend malades. Quoi? Non, mais ça serait bien si on fermait la fenêtre qui est là-bas. Je crois qu'elle introduit du vent froid. C'est dommage. Si c'est possible, je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'est pas fermable. Hein? Là, très très bien. Non. Là, là. Je te donne mes félicitations au nom de la direction. Bon. Et donc, je reviens à Réphaénou. Nous sommes donc malades. Alors, il y a différentes raisons pour la maladie. Il y a la maladie qui vient du fait que c'est le péché qui fait que nous méritons la maladie. Il y a les persécutions. Mais une fois que c'est fini, c'est-à-dire que à ce stade de la prière, on est libéré de tout ça. On a demandé la connaissance, on a demandé la teshuvah, le pardon, la geoula, et on a reçu. Et pourtant, on reste malade. C'est qu'il y a d'autres raisons à cela. Il y a des raisons naturelles. L'homme est naturellement porté à une faiblesse de corps qui est la maladie. Maintenant, si on a de la maladie, le remède, c'est ce qu'on appelle la guérison. Il n'y aurait pas de guérison s'il n'y avait pas de maladie. Mais si l'homme se comporte comme il faut, il mange ce qu'il doit manger, il fait de l'exercice, il respire de l'air frais, il n'y a pas de raison qu'il tombe malade. Il y a des gens qui ne vont jamais de leur vie chez le médecin. J'ai entendu parler d'un rabbin qui a vécu 104 ans et qui n'a jamais vu de médecin de sa vie. D'accord? Ça arrive. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de guérison? On a besoin de guérison pour deux choses. Tout d'abord, pour le cordon ombilical. C'est-à-dire, quand on naît, il y a une intervention immédiate qui fait que l'on coupe le cordon. Et ce cordon a besoin de guérir. N'est-ce pas? Donc, il y a, dès le départ, un besoin de guérison. Mais, en vérité, ça ne demande pas des médecins. Ça se passe de manière naturelle. Mais, il y a une atteinte à l'intégrité corporelle que nous faisons de notre propre volonté, une blessure, la Brit Mila. La circoncision est une blessure, une violation de la perfection naturelle, n'est-ce pas? Et c'est parce qu'on fait la circoncision qu'on a besoin, tous les mâles d'Israël, nous avons besoin de guérison. Ça vous explique maintenant pourquoi la bénédiction en question se trouve à la huitième place, comme par hasard, parce que ça correspond à l'atteinte que nous faisons le huitième jour à notre corps. Mais pourquoi est-ce que la Torah nous a dit de faire la circoncision le huitième jour? Vous savez pourquoi? Parce que le huitième, ça vient après sept jours. Sept et un, ça fait huit, je crois. Et sept jours, c'est le cycle naturel. C'est-à-dire le monde naturel est créé en sept jours. Et donc sept jours, ça représente la plénitude naturelle, puisque dans un monde tridimensionnel, il y a six directions et un centre, n'est-ce pas? Devant, derrière, droite, gauche, haut et bas, et le centre, ça fait donc sept. Et donc le monde naturel, il est fait de sept. Mais quand je viens transformer la nature ou dépasser la nature, j'en arrive au huit. Eh bien, étant donné que nous sommes créés incirconcis par la nature, et après nous dominons la nature puisque nous faisons la circoncision, ça donne donc le chiffre 8. C'est la raison pour laquelle la Torah dit de faire la circoncision le huitième jour. Oui. Il y a des personnes qui naissent déjà circoncis. C'est vrai. Quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas leur faire la circoncision puisqu'ils sont déjà circoncis. Mais, ce que l'on fait, c'est qu'on leur fait sortir une petite goutte de sang. Le sang de l'Alliance, ça s'appelle. D'accord? Parfois, il y a des phénomènes plus compliqués. Une demi-circoncision. Une demi-circoncision, c'est-à-dire que le prépuce est pratiquement absent, mais il y en a encore. Et alors ça, pour les mohalim, c'est la chose la plus difficile à faire. Alors on dit que ça signifie qu'il y a quelque chose de spécial dans la personne en question. Oui. Savoir, j'ai connu des personnes comme ça. Hein? Quoi? J'ai rien compris.
C'est-à-dire qu'il y a les spéciaux et nous,
les... Il y a les spéciaux et les pas spéciaux. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Il y avait un rabbin à Aix-les-Bains qui s'appelait le Rav Raïkil. Vous entendez parler du Rav Raïkil? Il dit parler des différentes sortes de juifs. Comme il avait l'accent polonais, il ouais. disait qu'il y a des gens qui sont pieds, et il y en a qui sont très pieds, et il y en a qui sont pas pieds. Il y a les pas pieds. Bon. Pourquoi je disais ça? Oui, à cause de ton truc, il y a les spéciaux, les pas spéciaux. Voilà. Comment? Pourquoi est-ce que les femmes? Parce que c'est le texte de la tuya. Quoi? Les femmes, elles n'ont pas besoin de guérir, justement. Elles ont besoin de guérir. C'est-à-dire, c'est naturel, tout ce qui se passe chez elles. Oui? Il y a une question sur... Ben, ils ont le droit d'être spéciaux. Ah, ben, ça veut dire que ça représente une certaine tahara, une pureté ou quelque chose. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il est né comme ça. Oui, il y a un parallèle, bien sûr. Le Mikdash a été inauguré le 8e jour. Bien sûr, oui.
Le 8,
c'est Dieu? Non, 8, c'est le surnaturel. C'est ce qui dépasse la nature. Hein? J'ai bien compris. Si on donnait un chiffre à quoi? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, 9, c'est pas ça. 9, ça veut dire l'amusement. En hébreu, s'amuser, l'ishtasher, rapproché du mot tesha, qui veut dire 9. D'accord? Alors, si vous cherchez. Par exemple, la richesse, alors si vous tombez sur SR, qui veut dire 10, et à rapprocher du mot rocher, la richesse. C'est-à-dire quand il ne manque de rien, c'est 10. Mais alors, si vous cherchez à Kadosh Baruch Hu dans tout ça, vous lui donnez un chiffre, c'est 0. Le chiffre 0. D'accord? Mais qui n'est pas un chiffre. Ça a été inventé très tard, le 0. Donc je voudrais revenir ici à Refaïn, Guérino. Refaïnu Hachem Vénérafé. Guéris-nous, ô Dieu, et nous serons guéris. Ô Shia'enu, sauve-nous. Vénivachéa, nous serons sauvés. Kiteilatenu Ata, car tu es notre louange. Bon alors, cette première partie de la bracha semble un peu lourde. Guéris-nous et nous serons guéris. C'est un pléonasme, c'est évident. Non, c'est pas un peu, c'est une lapalissade. C'est évident que si tu nous guéris, nous serons guéris. Refaïnu Hachem, Vénérafé. Guéris-nous Hachem, et alors nous serons guéris. Si tu nous guéris, c'est évident que nous serons guéris. Alors quel est le chidouche? Ça veut dire, quand toi tu nous guéris, alors nous sommes vraiment guéris. Quand c'est les autres qui nous guérissent, alors il peut y avoir rechute. Comment? L'entité de l'homme. Disons comme ça, Refaïnu Hachem, c'est bon, qui nous guérit? Parfois, je suis guéri par un médecin, mais il y a risque de rechute. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui me guérit, il n'y a pas de raison qu'il y ait rechute. Oui, d'accord, c'est vrai. Il y a différentes sortes de guérison. Refaïnu Hachem Vénérafé, Oshéenu Vénivachéa. Alors, guéris-nous et nous serons guéris, sauve-nous, nous serons sauvés. Mais alors, il s'agit de la Géoula, ça on en a parlé dans la bénédiction précédente. Donc il s'agit ici d'autre chose, quelque chose qui a rapport à la guérison. Dans la guérison, il y a deux dimensions. Il y a la dimension corporelle et la dimension mentale. C'est-à-dire, le fait d'être malade, ça me rend malade. Ça? Quand je suis malade, j'en suis malade. Il y a la maladie physique, il y a la maladie mentale. Je souffre, la souffrance qui est liée à la maladie. Et donc, on demande ici deux choses, Refaenu et Oshiaenu. Petite remarque, tout ça est tiré d'un verset de Jérémie. Dans Jérémie, il est dit, Refaeni Hashem ve'erafe, guéris-moi, éternel, et je serai guéri. Oshiaeni ve'ivashea, sauve-moi et je serai sauvé. Kite ileati ata, car tu es ma louange. Alors, ce qu'a fait le texte de la prière, on a pris le verset de Jérémie et on l'a passé du singulier au pluriel. Pourquoi ? Parce que toutes les prières sont au pluriel. Parce que les prières sont collectives. Elles viennent au nom de la communauté, pas au nom de l'individu. Donc ça se met au pluriel. Oui. Comment ? Qu'est-ce qui est au singulier ? Qui met au singulier les brachot ? Ah, tu parles des birkot hashachar. Les birkot hashachar, ce n'est pas des prières, c'est des louanges. On remercie Akadosh Baruch Hu de ce qu'il nous a donné. Donc on le dit au singulier. En France, ils ne mettent pas au pluriel. De quoi tu parles ? Tu as le Patach Eliyahu ici ? Avec quoi exactement ? Qu'est-ce qu'il y a dans le Patach ? Ah, tu parles de la bénédiction à Mahavir Hevle Shena Me'ainai ou Me'ainenu. Ah ! Oui, Afapai, Afapenu. Ah, d'accord. C'est un vieux débat, ça. Ça, c'est un vieux débat entre les poskim. C'est une pour une bracha seulement. Oui, qu'il y a cette divergence. D'accord, c'est tout. Non, c'est. Oui, alors la tradition kabbalistique met ça au singulier. La tradition non kabbalistique met ça au pluriel. Pour tout vous dire, c'est pas vraiment très important. Alors. Hein? Non, je vois très bien ce que dire. Non, c'est pour une bracha, c'est tout. Mais là, tout est au pluriel, dans tout le monde. D'accord. Ve'a'ale, alors maintenant je vais dire, c'est quoi ? Kite ilatenuata, car tu es notre louange. Alors le car tu es notre louange correspond, c'est une sorte de répétition de ce qu'on a vu, l'eman shemecha, en faveur de ton nom. On peut dire la même chose, puisque tu es notre louange, tu voudrais quand même pas qu'on soit malade, parce qu'il n'y a pas de louange à ce que ta créature soit malade. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu de nous guérir pour que sa louange soit justifiée. Maintenant, comment est-ce qu'on dit une louange en hébreu ? Hein ? Tu allais dire Shirachirim, c'est très bien, mais ce n'est pas ça dont il est question. Là, on vient de lire le mot. Alors, c'est quoi Teïla. Teïla. Ah, tu as dit Halel. Qui a dit Halel ? C'est toi qui a dit Halel. Tu as remarqué qu'il n'y a pas écrit Halel, mais qu'il y a écrit Teïla. On avait déjà étudié ça quand on avait étudié la phrase d'introduction à la Tefila. Adonai sefatai tiftar. Ufiyagi tehilatecha. On a vu donc que le mot tehila n'est pas le mot hallel. Et que donc le hallel ne peut se réciter que dans un monde entièrement parfait. Mais dans un monde où il y a des maladies, on ne peut pas parler de hallel, on parle de tehila. D'accord ? Kitilatenuata. Vehaale. Arucha, ou là je vais, bon, il y a différentes variantes ici dans les textes, séfarades, ashkénazes, yéménites, etc., racidiques. Là je vais prendre le texte que j'ai devant les yeux, mais ça correspond à peu près à ce qui est dit dans les autres minhagim. Veha'ale arucha umarpe. Amen, guérison et guérison. C'est-à-dire, le mot arucha veut dire guérison. Marpe veut dire guérison. Mais ce sont deux sortes de guérison. Il y a marpé, c'est la guérison physique, et arucha, c'est la rééducation, en fait, on peut dire. C'est-à-dire, il y a quelque chose, il y a ici dans le mot arucha, la connexion du mot aroch, qui veut dire long. Quelque chose qui se fait à la longue. Parce que, par exemple, j'ai une fracture. La fracture, elle peut être guérie immédiatement, mais il faut de la rééducation, la physiothérapie, d'accord ? Donc, ve'ale arucha ou marpe. L'échol, alors là, c'est pas dans tous les nusachim, mais là, je vais le lire puisque c'est imprimé. L'échol tachalouenu, l'chol machovenu, l'chol makotenu. Alors, Je vais prendre à partir de la fin. Maka, c'est la plaie. La plaie doit être guérie immédiatement. Mahov, c'est la douleur. Ça me fait mal. Ça aussi, il faut guérir. Et Yatahalou, c'est la souffrance d'avoir de la douleur. Qui, elle, refait Rahaman Veneeman Ata. Car tu es un Dieu guérisseur, miséricordieux et fidèle. Alors, bon, dans certaines éditions, il y a écrit Ne'eman ve'Rahaman, dans d'autres, il y a écrit Rahaman ve'Ne'eman. Il y en a même qui rajoutent le mot Meler, qui est le Meler Rofe Ne'eman ve'Rahaman Ata. Ça, c'est dans le texte Ashkenaz. Dans le texte séfarade, le mot Meler n'apparaît pas. En tout cas, ce qui est important ici, c'est Rahaman et Ne'eman. D'habitude, un médecin est soit Rahaman, soit Ne'eman. Il est soit miséricordieux, soit fidèle. S'il est miséricordieux, le médecin, il ne sera pas fidèle. Par exemple, le médecin doit couper la chair. Alors le malade lui dit, ne coupez pas, ça me fait mal. Que fait le médecin par miséricorde? Il ne coupe pas. Mais dans ce cas-là, il n'est pas fidèle. Par contre, s'il est fidèle, il n'est pas charitable, il n'est pas miséricordieux. Donc, chez les médecins, on est soit Ne'eman, soit Rahaman. Tandis que Kadosh Baruch Hu, il est à la fois Rahaman et Ne'eman. Il peut guérir fidèlement et en tenant compte de la souffrance, avec miséricorde. C'est toujours les cas qu'on connaît de guérison miraculeuse. Il y en a plein comme ça tous les jours. Vous savez, dans les hôpitaux, on dit, ah tiens, les médecins disaient que ce type était fichu, et puis, ah, non, ça va. Il y avait des signes mauvais, et puis brusquement, les signes ont disparu, etc. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Il y a beaucoup de malades terminaux qui vont à l'enterrement de leur médecin. Ce sont des choses bien connues. Bon. Baruch Ata Hashem, source de bénédiction, tu es Hashem, Rofe Hole Amo Israël, qui guérit les malades de son peuple Israël. Pourquoi est-ce qu'on demande la guérison pour les malades du peuple d'Israël et pas pour tout le monde? Hein? D'abord parce qu'on est responsable des autres juifs, mais pourquoi ne pas prier pour tout le monde? Parce que c'est à travers la santé d'Israël qu'arrivera la santé du monde. Maintenant, il y a aussi autre chose. Vous savez, quand on prie pour quelqu'un, on dit voilà, un tel est malade, on prie pour lui, et on dit mais qu'il soit guéri au sein de tous les malades d'Israël. Betor cholé amo Israël. Pourquoi on dit ça? Parce que prier pour la guérison de quelqu'un, ce n'est pas toujours une bonne chose. On a prié, finalement le type il est en bonne santé, et on se dit dommage qu'il ne soit pas mort. Parce que quand on voit le mal qu'il fait, on se dit oh là là, c'était une gaffe gigantesque, il ne fallait pas. Alors, c'est pour ça qu'on prie, Betor Shah Olam Israël, on prie que sa guérison s'insère dans la guérison d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contradiction entre sa guérison et le bien du clal. C'est pour ça que c'est dit au pluriel aussi. Oui? Est-ce qu'on peut prier pour qu'il y ait guérison miraculeuse? On peut. Attention, on peut demander des choses qui soient miraculeuses de manière cachée. C'est par exemple, quelqu'un a un cancer, et bien que les cellules cessent de se diviser à l'infini. D'accord. Mais si tu demandes à quelqu'un à qui il a perdu une main, voilà, sa main a été coupée, alors tu demandes que la main repousse? Non. Ah non, d'accord. C'est-à-dire, il faut le miracle peut-être demander s'il s'insère dans la nature. D'accord. Tandis que demander un miracle, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Parce que même si le miracle arrive, ça réduit les mérites. Non, les médecins ne servent pas beaucoup. Au contraire, ce sont les délégués. N'est-ce pas? Si on ne va pas voir le médecin, alors c'est embêtant. C'est comme le type qui est en train de se noyer et qui demande à Akadosh Baruch Hu, sauve-moi, et alors arrive un hélicoptère. Il dit non, non, c'est Akadosh Baruch Hu qui va me sauver. Après, bon, il meurt, et il dit, je t'ai envoyé un hélicoptère, tu t'en es pas servi. D'accord? L'hélicoptère, c'est un exemple, ça peut être la bouée aussi, tas de choses. Bon. Où est-ce qu'on en était? Ah oui. Maintenant, on passe à la bénédiction, la 9e maintenant, celle qui concerne la Parnassa. Vous avez remarqué d'ailleurs que ça va en ordre décroissant. C'est-à-dire, les commentateurs disent, c'est Rabbi David Abou Darham, un des grands maîtres d'Espagne, qui explique que l'ordre des bénédictions, c'est un ordre décroissant d'importance. C'est-à-dire, le plus important, c'est de demander la connaissance. Moins important, la teshuva. Moins important, le pardon. Moins important, la délivrance. Moins important, la santé. Et encore moins important, la parnassa. D'accord ? Donc, il y a ici un ordre décroissant d'importance. Mais enfin, c'est important quand même. C'est-à-dire, on a besoin de parnassa, on a besoin de subsistance, donc on prie pour la subsistance. La subsistance, ça commence par la pluie. C'est pour ça que l'essentiel de la bracha tourne autour de la pluie. Maintenant, il y a ici deux textes différents, l'un pour l'été et un pour l'hiver. L'été, c'est-à-dire la saison ensoleillé, et l'hiver, la saison des pluies. Combien a-t-il de saisons dans l'année ? Deux. D'accord ? C'est-à-dire, dans la tradition européenne, il y a quatre saisons. Dans la tradition d'Eretz Israël, ce qui est beaucoup plus, disons, correspond plus à notre climat, il y a deux saisons. Il y a, Chama et Gshamim. Chama, c'est le temps du soleil, Gshamim, le temps de la pluie. C'est 6 mois et 6 mois. D'accord ? Le temps du soleil, c'est de Nissan à Elul, et le temps de la pluie, c'est de Tishrei à Adar. Donc, dans quelle période nous sommes ? La pluie, voilà, Michel. Hein ? Vous avez remarqué ? Non, c'est-à-dire que ces derniers temps, l'hiver est sorti de mode. Alors, on est en train de penser peut-être à l'abolition de l'hiver. D'accord ? L'hiver étant trop, peut-être que ça va être supprimé, tout simplement. En tout cas, tant que l'hiver continue d'être désiré, alors il y a la prière pour la pluie. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, on arrivera peut-être à désaliniser l'eau de l'océan. Alors dans ce cas-là, la pluie sera superflue. Et donc, vous avez ici un texte pour la période ensoleillée et un autre pour la période de la pluie. Il y a en Eretz Israël quelque chose d'extraordinaire. C'est que pour avoir de l'eau, on a besoin de la pluie. Et la pluie est un phénomène qui n'est pas automatique dans la nature. Il y a des phénomènes qui sont absolument automatiques. Par exemple, vous vous mettez au soleil et vous bronzez. C'est automatique. Mais la pluie ne tombe pas toujours. Et jusqu'à ce jour, même les météorologistes les plus précis du monde n'arrivent pas à déterminer avec certitude le moment de la pluie. Il y a quelque chose, disons, d'impondérable qui brise le déterminisme naturel. D'ailleurs, c'est une des origines de la théorie du chaos. Vous connaissez la théorie du chaos en science ? Il y a une théorie développée depuis quelques dizaines d'années qui fait son chemin, selon laquelle il y aurait des phénomènes dans la nature qui ne sont pas déterminés à l'avance. Par exemple, la trajectoire d'une goutte de pluie. Est-ce qu'on peut calculer à l'avance la trajectoire d'une goutte de pluie ? On pourrait s'imaginer que si nous avions toutes les données nécessaire, on pourrait avec précision dire que ça va tomber comme ça. Or, la théorie du chaos, développée aujourd'hui par de nombreux scientifiques, dit que non. Il y a des phénomènes où, même si nous avons toutes les données, la direction reste quand même indéterminée, aléatoire. Entre autres, par exemple, la direction des gouttes de pluie ou la forme des nuages. Ça ne veut pas dire que dans le macro, c'est-à-dire en grand, il n'y a pas des grandes règles, mais dans le micro, c'est-à-dire au niveau de la cellule ou bien ou de la molécule, il y a une marge de liberté. C'est comme si les particules avaient le choix de la trajectoire qu'elles empruntent. C'est comme s'il y avait un libre arbitre au niveau de la particule. Très bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, ça veut dire que la pluie ne tombe pas forcément. Ça dépend si on fait la prière ou pas. Il y avait un cas, par exemple, d'ailleurs c'est connu, je sais qu'aussi bien en Eretz Israël qu'en Tunisie, il y avait un minhag, comme ça, une habitude des Arabes, de payer les Juifs pour qu'ils prient pour la pluie. Ah oui, il y a eu un cas d'ailleurs en Espagne, à Saragosse, au temps de Rabbi Rizai Crescas. Vous avez certainement entendu parler de Rabbi Rizai Crescas. Rabbi Chaya Kreska, c'est un des grands maîtres et philosophes d'ailleurs du judaïsme, qui vivait à Saragosse au XIVe siècle. Et c'était un personnage extrêmement rationnel, rationaliste à bloc, hein, Rabbi Chaya Kreska. Et pourtant, un jour, il y avait la sécheresse, ce qui arrive souvent dans ces parties-là de l'Espagne. Il y avait la sécheresse et les goyims ont pris toute la communauté, les femmes et les enfants, ils les ont enfermés dans la synagogue. Ils ont fait sortir les hommes en dehors de la ville. Ils leur ont dit, voilà, si la pluie ne tombe pas dans les 3 jours, on vous tue tous. Les femmes et les enfants qui sont dans la synagogue et vous qui sont à l'extérieur. Il y avait là-bas Rabbi Chaya Kreska qui a dit à l'assemblée qui était avec lui, il dit, ils ont raison, l'anou amaim, l'eau est à nous. C'est écrit dans Bereshit. Et ils ont prié et la pluie est tombée. Voilà. Bon. C'est des choses bien connues que les juifs font tomber la pluie. Il n'est pas nécessaire pour cela de faire une danse spéciale ou de se servir d'un tomahawk. C'est absolument superflu. Maintenant, c'est quoi la logique de cette histoire de faire tomber la pluie? Faire tomber la pluie n'est pas une chose, disons, pour le moderne, on n'arrive pas à comprendre le rapport qu'il y a entre la vie intérieure et la vie physique. C'est-à-dire, il n'y a pas de pluie. Pourquoi est-ce que ma prière ferait tomber la pluie? C'est parce que s'il n'y a pas de pluie, c'est qu'il y a un désordre. Il n'y a pas d'harmonie entre le haut et le bas. S'il n'y a pas d'harmonie entre le haut et le bas, c'est qu'il n'y a pas d'harmonie entre le haut et le bas chez moi. Donc je dois faire la paix intérieure, je dois amener un point de paix dans mon être, ce qui va rétablir l'harmonie dans un point du monde. Ce point du monde, c'est moi. Et à partir de là, ça entraîne une dynamique qui va rétablir l'harmonie dans l'ensemble du monde et la pluie va tomber. C'est comme ça que ça marche. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans le schéma tous les jours. Si vous faites ma volonté, il y aura la pluie. Si vous ne faites pas ma volonté, il n'y aura pas de pluie. On le dit tous les jours, dans le schéma. Hein? Ah, parce qu'il y a quelque chose à réparer. Quand je fais la tefila, je répare quelque chose en moi. C'est-à-dire, je rétablis l'ordre des différentes forces qui me composent. D'accord? Donc, c'est ça qui amène la pluie. Maintenant, il y a un autre pays, pas loin de chez nous, qu'on appelle l'Égypte. Vous connaissez? Et là-bas, il n'y a jamais de pluie, ou presque. Il n'y a presque jamais de pluie en Égypte. Et pourtant, il n'y a pas de problème d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a le Nil. Donc, le Nil, il y a la crue du Nil qui arrose les champs. Inondation, et puis après ça revient à son état antérieur, et on peut cultiver la terre, n'est-ce pas? Donc quel est le meilleur pays, Eretz Israël ou l'Égypte? Eretz Israël, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est les Chachamim qu'on dit ça dans la Gemara. Parce qu'en Eretz Israël, pour avoir la pluie, il faut prier. C'est-à-dire que le cœur reste ouvert, tandis que l'Égyptien, lui, ne manque de rien, donc c'est une malédiction. Il est comme le serpent qui est nourri par la poussière. Il ne lui manque jamais de rien. Ne manquer jamais de rien, c'est ne plus être en rapport avec l'infini. C'est rester dans un monde fermé. C'est une malédiction. Oui. Il y a toujours la crue du Nil. Ça n'existe pas qu'il n'y ait pas la crue du Nil. Toujours. D'où est-ce qu'elle vient la crue du Nil, au fait? Pourquoi est-ce qu'il y a la crue? Parce que le Nil vient des montagnes d'Éthiopie, et que dans les montagnes d'Éthiopie, il y a toujours de la pluie. Et donc, quand il y a abondance de pluie dans les montagnes d'Éthiopie, ça amène la crue du Nil. Voilà. Ça ne peut pas ne pas se passer. Hein? La pluie en Eretz Israël n'est pas automatiquement. Mais dans les montagnes d'Éthiopie, c'est très haut, il y a toujours de la pluie. Impossible qu'il n'y ait pas de pluie. Surtout que le Nil, il a beaucoup d'embranchements à ses sources. Donc si, par hasard, sur une montagne, il n'y a pas, dans une autre montagne, il y aura. Quoi, Joseph? On voit qu'il y a la famine en Égypte. Mais on ne sait pas pourquoi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le Midrash, tout ça. Un Midrash n'est que la moitié d'un Drash. Oui. Et donc, voilà. Donc, je reviens donc à l'histoire de la pluie. La pluie est quelque chose de très important, qui permet justement d'entretenir une relation de cœur ouvert entre l'homme et le Créateur. Par exemple, dans la création du premier homme, la Torah dit « la pluie n'était pas encore tombée et l'homme n'avait pas encore été créé ». Comme s'il y avait un rapport entre la création du monde, de l'homme et la pluie. Alors, il y a un... Et pourtant, la Torah nous dit « oui, mais il y avait une vapeur qui montait du sol et qui arrosait la terre ». Donc, s'il y avait une vapeur qui arrosait le sol, pas besoin de pluie. Oui, mais justement, c'est plus grave. La vapeur qui arrose le sol, c'est comme le Nil. Donc, c'est une malédiction. La vapeur, il se dit là-bas en hébreu, « ed ». « Ve'ed ya'ale mina'aretz ». Il y avait une vapeur qui montait. « Ed ». Comment vous écrivez « ed » ? Vous avez ici trois propositions. Ceux qui disent « aleph dalet »,« he dalet » et « ain dalet ». Alors, comment je vais... Il faut que je choisisse. Vous savez quoi ? Je vais choisir ce qui est écrit dans le texte. Dans le texte, il y a « aleph dalet ». Aleph dalet. Aleph dalet, c'est les deux premiers mots d'un autre mot de trois lettres. Adam, exactement. C'est-à-dire la préfiguration, l'attente de l'homme, c'est Ed. On attend que l'homme vienne pour compléter tout ça. Que le Ed devienne Adam. Maintenant, comment ? Ed, c'est une vapeur. Edim. D'accord ? Ne pas confondre avec le mot « head » qui veut dire un écho, ou le mot « head » qui veut dire un témoin. D'accord ?« Head »,« head », »,« head ». Ce n'est pas du tout la même chose. D'accord ? Quand on a besoin également, quand on est dans la détresse, on a besoin d'une aide. Mais ça, c'est en français, ça n'a rien à voir. Bon. Donc, je reviens à une histoire là, de pluie là, et de bénédiction. Alors, il y a ici, le texte est très long. Je vais simplement faire une petite remarque à propos du texte. Dans toutes les versions, aussi bien séfarade, ashkenaz, yéménite, été, hiver, il y a deux mots qui reviennent en permanence et avec beaucoup et abondamment. C'est la racine barer et la racine tov. Par exemple, qui est le tov ou metivata ou varer hashanim, baorata hashem varer hashanim. C'est-à-dire qu'il y a un bien, il y a une bénédiction. Il peut y avoir un bien sans bénédiction, une bénédiction sans bien. Par exemple, on peut avoir de l'abondance. C'est ça la bénédiction. Mais cette abondance va servir au mal. Alors on demande, c'est une abondance qui serve au bien. Et qu'il y a un bien qui devienne abondant. C'est pour ça qu'il y a les deux éléments. D'accord ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.